Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
LP, les taux d'intérêt sont à côté dans le plafond. Les maisons sont pas achetables. Le panier d'épicerie coûte plus cher que jamais. Je te parle pas du prix du litre d'essence.
Non.
Mais on peut toujours pas acheter de supercar parce que ça se vend en surenchère. Parce que tu veux acheter demain matin une Porsche GT3 RS, tu dois posséder un modèle d'ancienne génération que tu vas donner en échange. Tu veux t'acheter une Ferrari parce que t'as gagné à la loterie, c'est pas si simple. Tu dois te qualifier. Les supercars, eux, demeurent très, très, très convoités.
T'as bien raison, Germain. Elles sont de plus en plus en demande. Les constructeurs les sortent les unes après les autres. Ces éditions spéciales qui coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars. Nous, on peut
Sont vendues à l'avance.
Nous, on peut se contenter de les voir en photo. Et parfois, de les conduire.
Oui, ou mais c'est rare.
D'être en tant que passager. Puis aujourd'hui, je pense qu'on veut parler de ces véhicules-là qui nous font rêver, nous, qui font rêver pas mal tout le monde. Je pense qu'ils sont des amateurs d'automobiles. Et puis, certaines expériences qu'on a eues et certaines anecdotes reliées à ces supercars-là ou ces hypercars également, maintenant.
C'est comme un autre niveau, ça.
Oui, hypercar qui est introduit maintenant avec l'ère électrique de l'automobile. Et puis, ces véhicules-là, on veut en parler parce qu'elles sont très, très spéciales. On part!
LP, c'est quoi ton premier contact avec une super voiture ou un supercar, une voiture exceptionnellement chère, rare et puissante?
J'aime ça que tu dis contact parce que la voiture qui était sur le mur de ma chambre, c'était une Countach.
Lamborghini. Tout est dans tout.
Fait que c'était le poster qui était là au-dessus de mon lit.
T'es
que
ben
je regardais cette Lamborghini là. Merci. Cette Lamborghini là rouge qui me faisait rêver. Pourtant une voiture qui était pas vraiment exceptionnelle en tant que tel, à part au niveau du design, mais conduire apparemment, j'ai jamais conduit, mais apparemment que c'était pas le yarb, comme on dit.
Ouais, il y avait encore des restants agricoles là.
Ouais, c'est ça, des restants de tracteurs Lamborghini. Pour ceux qui le savaient pas, Lamborghini a commencé en tant que manufacturier de tracteurs agricoles, mais cette voiture là me faisait rêver. Lamborghini dans ce temps-là me faisait rêver. Maintenant c'est une autre affaire. Je trouve que c'est Lamborghini est devenu un peu plus générique. Tout le monde en a. C'est un peu partout, c'est moins exclusif.
L'accessibilité est beaucoup plus, justement, là, dans ces marques peut-être un peu plus prestigieuses de super voitures.
Ouais.
Chez Lamborghini, on a quand même un volume de vente annuel entre guillemets assez élevé.
Ben oui. Surtout c'est... après l'avenue de l'Urus.
De l'Urus, bon, c'est... évidemment certaines voitures à diffusion plus limitée, une ouais. Veneno, une Sesto Elemento, oubliez ça là, on peut pas acheter ça.
Ouais.
Mais une Huracan entre guillemets ordinaire jusqu'à un certain point, c'est assez accessible.
Ouais.
Même chose pour un Urus là.
Oui, effectivement, c'est devenu une marque qui est quand même plus populaire, entre guillemets, sans être pour le moins extravagante là, dans ses designs et dans ses prouesses d'ingénierie. Mais je regarde d'autres, pour répondre à ta question, là, je regarde d'autres marques qui sont un petit peu plus éloquentes à mon opinion, comme Koenigsegg, par
oui.
exemple, le constructeur scandinave de véhicules qui sont des véhicules extraordinairement chers, mais tellement originaux comparativement, par exemple, à chez Lamborghini.
Mais on est dans une diffusion qui est beaucoup plus limitée.
Ouais.
Les véhicules sont vendus d'avance avant même d'avoir été présentés,
ah,
bien
ouais.
souvent. On est dans les mêmes eaux que Pagani a rendu là.
Ah oui, Pagani, absolument. Ça, c'est un autre constructeur qui est dans la liste des véhicules que j'aurais aimé conduire. Je peux te conter une anecdote que j'ai eue avec une Koenigsegg, par
oui,
exemple.
Oui, bien sûr.
Absolument. Avec, mais pas seulement une Koenigsegg, mais une collection de voitures que j'ai pu voir, une collection privée que j'ai eu l'occasion de voir, qui contenait certains véhicules qui répondraient encore à la question. Parce que là, il n'y en a pas juste un. Tu peux pas me demander, il y a juste un véhicule exotique qui me fait rêver. Il y en a tellement. Vite, pour l'anecdote, j'étais dans un événement qui était le PRI, Performance Racing Industry, à Orlando. C'est comme une foire pour les propriétaires de véhicules de course, les équipes de course qui viennent magasiner pour de l'équipement, etc. Puis ça fait plusieurs années de ça. Et puis, je suis assis dans un restaurant. Le restaurant, il est vide. Là, la journée était longue. Je m'assois puis je commence à parler de char avec la serveuse qui connaissait quand même.
Il faisait semblant de s'intéresser à ça. Ben mais ouais. Qui trouvait que tu avais des beaux yeux.
Elle était peut-être intéressée à mes sujets automobiles, probablement pas à moi. Mais dans le même restaurant, assis au bar, il y avait un individu qui s'est un peu infiltré dans notre conversation.
Au grand dam de la serveuse.
Ouais, c'est ça. Et puis, qui commence à nous dire, moi, j'ai une collection automobile. Moi aussi, j'aime ça, les chars, etc.
Fait que là, et il faut dire, là, des gens qui nous disent on aime ça, les chars,
oui.
On nous le dit 37 fois par jour. C'est normal, c'est évident.
On sourit et puis on écoute, là, parce que c'est ça fait partie de notre travail. Et puis, je m'attendais à avoir une conversation un peu vide de sens avec ce monsieur-là, qui avait l'air d'un autre client, là, comme moi, dans ce restaurant-là, qui était vide. Et puis, qui me dit, je lui demande, c'est quoi les véhicules dans votre collection? Il dit, c'est une très petite collection. J'ai une Koenigsegg, j'ai une Bugatti Veyron.
Attends.
Et puis j'ai une Ferrari Enzo.
Quoi?
Koenigsegg, CCX, Bugatti Veyron et Ferrari Enzo. Fait que là, moi,
t'es-tu sérieux?
Que je pars à rire, mais je me dis dans ma tête que ce gars-là, il est en train de me niaiser. Là,
il est en train de te monter une histoire.
Il est en train d'essayer d'impressionner la serveuse qui est en avant.
La serveuse fort convoitée,
visiblement. Il connaissait quand même les gens. Et puis, mais j'embarque un peu dans le jeu, tout ça. Puis le monsieur, il dit, j'aimerais ça. Est-ce que t'aimerais ça l'avoir, la collection? Fait que je suis comme, c'est peut-être une attrape. Et il me dit, je peux pas te la montrer ce soir, je m'en vais, mais je vais donner la carte de mon curateur de ma collection.
Et quand t'as un curateur, d'habitude, c'est que les choses vont assez bien.
C'était une carte d'abonné du fond, mais il dit écris un courriel à ce gars-là. Et puis, il avait pris également mes coordonnées, puis il dit ils vont t'arranger ça demain. Moi, j'étais à Orlando pour 2-3 jours. Fait que là, le lendemain matin, je me réveille et puis je vois il y a une suite de courriels dans ma boîte de réception. Le gars avait écrit à son curateur, avait dit Louis-Philippe aimerait ça voir la collection, etc. Et puis j'étais là, c'est vraiment en train d'arriver. Peut-être
il avait
que
dit,
je vois.
C'est comme le Jeremy Clarkson mais du Québec, c'est une vedette. T'es obligé de le recevoir puis de l'accueillir en roi. Fais-y essayer toutes mes autos, ça va être écœurant.
Ouais. Laisse-les partir avec sa favorite.
Sa favorite, c'est ça. Non, ça s'est pas passé.
Ça s'est pas passé de t'avais comme ça.
D'accord.
Alors, je me suis dit, peut-être que je vais voir une Koenigsegg en vrai. Parce
pour
que
la première fois?
La première fois, j'avais jamais vu ça. Et une Veyron, on va dire la même chose. Fait que je me pointe. C'est une petite entreprise qui est dans un parc industriel. Et puis...
Est-ce qu'ils font de l'import-export?
Non, ils font pas d'import-export.
D'accord.
C'est une entreprise dans le pharmaceutique.
Est-ce que c'est louche?
Dans le pharmaceutique.
OK, donc, bien sûr. On sait que ça peut être très lucratif.
On va se dire que ça peut être très lucratif. Le curateur m'attend à la porte. Il me dit, c'est Louis-Philippe. Tu veux voir la collection? Il m'amène dans le sous-sol de cette entreprise-là. Et puis, il y a toutes les voitures que le propriétaire me dit qu'il avait. Donc, c'était véridique. Et d'autres voitures que je m'attendais jamais à voir cette journée-là. Fait que... Koenigsegg CCX, une deuxième Koenigsegg CCX R, édition spéciale en fibre de carbone.
C'était la première fois que tu voyais une Koenigsegg et la deuxième fois que tu voyais une Koenigsegg.
Oui, exactement.
Dans la même seconde.
Je peux te dire que j'avais les mains moites. CCX R, édition spéciale en fibre de carbone. Il y en a une là à Orlando. Ben, dans ce temps-là, il y en avait une là à Orlando et une en Arabie Saoudite. Donc, pour te dire que cette véhicule-là était faite en deux exemplaires très exclusifs. Deux Bugatti Veyron. La première fois que je voyais une Bugatti Veyron et la deuxième fois, une 16.4 de base, entre guillemets.
Oui.
Pur sang, qui était une édition avec les panneaux argentés, brossés, là, tu sais, qu'il y en avait seulement quatre au monde qui ont été faits. Puis cet exemplaire-là avait servi comme on va dire, un véhicule pour représenter ce modèle-là, la marque, dans les salons de l'auto à travers le monde. Puis là, ben, ce propriétaire-là avait mis la main sur cette pure 100-là. Et puis, il y avait le modèle de base à côté, parce qu'il dit, ben moi, le 16.4, c'est mon daily, un peu, je me promène avec, je vais pas me promener avec la pure 100, donc j'en ai acheté une deuxième, un
ben
peu
oui,
plus.
Pour s'en servir.
De base. Donc, on se rappelle que la pure 100 était évaluée à 4 millions dans ce temps-là, 4,5 millions environ.
On a la question du réalisateur qui veut savoir comment on écrit ça, quoi, Nexag?
Un petit peu moins pour la 16.4. Trois Ferrari, F40, F50 et Enzo, qui étaient dans le fond d'un mur là, en arrière, là, qui était quand même un bon trio à avoir là, si on aime les Ferrari. Et puis là, j'en passe, là, mais il y avait une Mercedes-Benz SLR, une Carrera GT Gembala, qui était, on va dire Gembala, qui est quand même un préparateur assez extravagant,
réputé,
mais très extravagant. Donc, elle était d'un orange, genre orangeade Saint-Hubert, là, tu sais, que tu manges avec tes croquettes, là, c'était avec tes filets de poulet, c'était vraiment...
Les lumières étaient éteintes, t'en voyais encore.
Spécial, c'était pas la première fois que je voyais une Carrera GT, mais quand même, en tout cas. Fait que, tout pour dire que, on va dire, cette petite aventure-là, fortuite, là, vraiment pour moi, qui m'a permis de m'asseoir dans une Koenigsegg CCXR édition spéciale. C'était un moment qui m'a fait réaliser que, waouh, ces voitures-là sont vraiment, vraiment différentes.
Tu parlais de la lignée de supercar Ferrari. Je me rappelle d'un très beau moment. Je sais pas si tu avais visité le salon de l'auto cette année-là, mais à la sortie de la Ferrari Enzo, on avait regroupé au Palais des Congrès. Puis là, bon, maintenant, évidemment, il y a un collectionneur là, bien réputé dans la grande région de Montréal, Luc Poirier, qui possède la lignée de supercar. Mais 15 ans avant ça, bien avant la sortie de la Ferrari, on avait regroupé au Palais des Congrès, une 288 GTO, une F40, une F50 et une Enzo. J'étais petit garçon à ce moment-là et j'ai eu la mâchoire décrochée.
Ah oui, hein?
Parce que c'était des voitures qu'on pouvait voir occasionnellement en ligne ou dans des encans prestigieux, mais de manière individuelle.
Mm-hmm.
Et cette fois-là, elles étaient réunies sous un même toit, dans le cadre d'un seul événement. Et franchement, moi, ça m'avait énormément impressionné. Puis c'est drôle parce que, pour moi, il y a une grosse différence entre voir une voiture dans un salon de l'auto, dans un musée, dans une collection, où une voiture va être placée parmi tant d'autres.
Oui.
Et à l'occasion de l'anniversaire de Mazda au Canada, on nous avait invités à Toronto. C'est un événement dont on a déjà parlé, pour conduire plusieurs véhicules de Mazda. Et là, tu vas me dire où on s'en va avec ça.
Oui, ça me dit quelque chose, ça.
Et on était dans l'autobus vers l'aéroport, dans un Ford Transit, une douzaine de journalistes, et on dépasse dans le trafic une F50 sur la 401 à Toronto.
Ah, c'est très rare.
Ce sont des voitures qui ne sortent plus jamais, ou presque, vont sortir une fois ou deux dans l'année.
C'était pas l'hiver, j'espère.
Non, c'était pas l'hiver. On était en plein été. On avait roulé la série des quatre générations de Miata, RX7, RX8 et tout ce que tu veux.
Ouais.
Et j'avais pris... C'est la pire photo de toute ma vie. J'avais pu zoomer autant que je pouvais avec le iPhone 8 que j'avais à ce moment-là.
Ça avait l'air d'une Fiero, cette photo.
Ça avait l'air d'une Fiero. Mais mon cher ami, je te confirme que c'était une authentique Ferrari F50. Et on dirait que de la voir en plein trafic, de la voir dans son élément naturel, finalement, qui est celui de la route, pas dans une vidéo YouTube de je sais pas où en Europe, pas dans un hangar caché quelque part en Californie. Non, sur la route, ici au Canada, en train d'être conduite par quelqu'un qui était pris comme nous dans le trafic.
Oui.
J'ai été impressionné.
Écoute,
j'ai été impressionné.
Je suis d'accord parce que moi, quand que j'étais petit, par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller visiter quand que... John Scotty avait une seule concession sur Jean Talon. Et puis, c'était l'importateur chez Lamborghini dans ce temps-là. Et puis, fouille-moi pourquoi que c'est arrivé, mais on m'a laissé aller dans la cave, cette espèce de cave d'Alibaba.
C'est pas une cave, c'est une voûte.
C'est une voûte avec tous les exemplaires de Lamborghini qui venaient d'arriver, les Diablos. qui étaient toutes cordées une à côté des autres. Puis
comment
là,
ça, il y en avait tant que ça?
Ben, c'est parce que c'était le seul importateur, je pense, au Canada dans ce temps-là. Là,
ah
dans
ouais.
Le, ouais? Ouais, ouais, dans le au début des années 90. Et puis, je pouvais me promener dans ces véhicules-là. Puis, elle rentrait, elle sortait, elle allait dans le garage pour se faire préparer, pour être mis à un propriétaire. Il y avait également des LM002.
Ah, ça, c'est beau, hein?
Deux camions. Écoute, le vendeur m'a confié comment que c'était nul, ce camion-là, en hiver. Il était resté pris au coin Saint-Hubert et Crémazie dans un petit banc de neige, ce camion-là. Il a fallu le remorquer. Pourtant, apparemment que c'était pas vraiment prêt pour l'hiver.
On a l'impression que c'est un véhicule indestructible.
Ah là, parce c'est
que
un véhicule d'armée, là, c'est militaire. Mais
les qualités hivernales sont nulles.
Les qualités hivernales étaient nulles à ce temps-là, qu'est-ce qu'on m'avait confié. Mais tout pour dire que oui, c'était ça revenait à la Lamborghini qui était sur le mur de ma chambre. Ça m'amène à te poser cette question-là parce que je sais pas, je t'allais même pas poser. C'est quoi toi ton véhicule que tu avais là, qui était le mythique, là, celui que t'as toujours voulu conduire?
En fait, je n'ai pas eu cette voiture-là sur une affiche dans ma chambre, petit garçon. J'avais modestement un Ford 48 et après ça, j'ai eu une C63 AMG. Quand elle est sortie, je trouvais cette voiture-là exceptionnelle.
Oh mon Dieu, je suis tellement d'accord avec
toi. De placer un V8 dans une berline compacte de luxe, c'est vraiment tout ce que j'aimais avec un.
Qui en a l'air de rien,
c'est
là, ça, qui a l'air de son
homologue. Sleeper, finalement, quand même. Enfin, bref. Mais j'ai une belle histoire avec une Porsche Carrera GT. Et je me suis rappelé cette histoire-là il y a quelques semaines parce que le constructeur a dévoilé la Mission X.
Oui.
Qui est la nouvelle super voiture électrique.
Ouais.
Qui a l'air, finalement, d'un autre supercar. Pas parmi tant d'autres, mais presque. On l'a vu en photo, probablement qu'en vrai, elle est encore plus belle. Mais vois-tu, une Porsche 918 Spyder, est-ce que ça a si bien vieilli technologiquement?
Ouais, c'est ça. Puis est-ce que ça émane Porsche?
Parce que c'était finalement une voiture hybride rechargeable. Puis, tu sais, c'est plein de compromis. Il n'y avait pas de boîte manuelle. Mm-hmm. Mais la Carrera GT.
Oh my God.
Moi, ça me fait, excuse-moi l'expression, capoter.
Ouais.
Et j'ai été pendant un moment, tu vas peut-être sourire, recherchiste pour l'émission Légende de la route qui était animée par notre estimé collègue Benoît Charrette et José Godet. Et j'étais recherchiste pour cette émission-là. Et c'était une journée spéciale Porsche. Et Benoît Charrette avait réussi à mettre la main sur une Carrera GT, entre autres. Mm-hmm. Et m'avait dit, Germain, veux-tu qu'on aille faire un tour sur le circuit? Je me répète, là, je capotais.
Tu m'as jamais conté cette histoire-là. Je suis tellement content de l'entendre.
Mais j'ai été passager, hein.
Oui, j'étais passager.
Bien sûr. Mais franchement, c'est tellement une voiture qui te fait vivre des émotions, une expérience qui ressemble à rien d'autre. Même comme passager.
Le son.
C'est une voiture qui est vivante. Le son du moteur V10 qui est juste en arrière de toi. La transmission manuelle. Ce sont des voitures comme il n'en existera plus jamais.
Ouais. Je suis d'accord.
Et je sais pas si, évidemment, tu le connais de nom, mais Doug DeMuro, le YouTuber américain, qui est très radical dans ses choix de voitures, qui a des voitures, comment dire, qui ont pas de compromis, tu sais. Il avait un Mercedes classe G, mais à court empattement avec deux portes, une Audi RS2. Bref, c'est un radical.
Ouais.
Il s'est procuré son premier supercar et c'est une Porsche Carrera GT. Et je peux pas faire autrement que d'être d'accord avec ce choix-là.
Oui.
Parce que, évidemment, une F40 ou une 288 GTO, ça demeure absolument exceptionnel. Mais je pense qu'il y a peut-être une plus grande facilité à conduire une Carrera GT qu'un minimum de... C'est pas un tracteur, là. Tu sais, un F40, là... Hein?
C'est tellement beau, mais... C'est ça. Ça l'offre l'expérience que c'était
l'expérience italienne des années 80.
Ouais, c'est ça. Mais on va dire que la Carrera GT, c'est pas un véhicule qui est très facile à conduire non plus là.
Non, c'est pas
une dextérité là.
Tu dois la piloter bien sûr, mais ça demeure une conduite accessible, j'oserais dire.
Ah,
c'est
ouais.
les mots manquent pour décrire cette voiture-là qui me fait vraiment rêver. Je peux même pas dire que je rêve un jour d'en posséder une. Parce que c'est inatteignable.
Je sais pas comment ça vaut. Ça valait 500 000 $ quand c'est sorti.
Mais c'est
en
plus d'un million maintenant. C'est plus d'un million de dollars américains pour un exemplaire dans un état décent. Mais j'espère pouvoir en conduire une un jour. Ça fait réellement partie de ma courte liste de voitures supercar que j'aimerais conduire un jour.
Bon, je te le souhaite.
LP, tu as un attachement particulier avec un supercar américain, la Ford GT, parce que tu as été témoin de l'achat de cette voiture-là de très près. Je te laisse en dire plus ou moins.
Oui, j'ai eu l'occasion de la conduire assez souvent aussi, la Ford GT. On parle du modèle 2005-2006. Ouais. Celle-là, c'est un exemplaire 2006. Un véhicule qui est tout à fait spécial parce que elle faisait renaître l'icône américain de la GT40, qui était le véhicule, bon, véhicule de production, qui a participé au 24 heures du Mans, qui a mis Ford un peu sur le podium,
qui a gagné au 24 heures du Mans,
et qui a mis Ford sur le podium, comme je disais, avec ce véhicule-là à l'époque. Mais maintenant, en 2005-2006, on a ressorti un véhicule qui ressemblait beaucoup à l'original, mais qui utilisait quand même des pièces du catalogue Ford pour assembler. Là, je pourrais dire que ce véhicule-là, quand on le regarde de près à l'intérieur, tu sais, c'est un moteur 5.4 litres modulaire en aluminium.
La même clé que la Ford Focus de la même année.
C'est la même manette qu'une mini fourgonnette Ford de la même année. C'est le bras pour les essuie-glaces. C'est de la Ford Focus, tu l'as bien dit. Pour ajuster les miroirs, on a le droit à une petite molette rotative là qui a été pris d'un autre véhicule.
Mais faut le dire, pour un manufacturier généraliste, de développer une voiture de ce calibre-là, c'est extrêmement coûteux, c'est souvent déficitaire pour un manufacturier comme ça. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on est allé piger un peu à gauche et à droite. Et tu sais, pour Porsche, par exemple, là, tu sais, si on est arrivé avec la Carrera GT, je reviens avec cet exemple-là, c'est parce qu'on avait vendu beaucoup de Boxster et de Cayenne juste un peu avant, là.
Oui, exactement. Puis, chez Ford, on voulait un peu raviver la flamme de la marque, là, qui était pas, qui avait seulement par exemple la Mustang comme véhicule sport. Alors, ce véhicule-là a été remis un peu sur la route, puis ça a été produit en quelques milliers d'exemplaires.
Et corrige-moi si je me trompe, mais à sa sortie, ça n'a pas été un succès commercial instantané.
Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de concessions ont eu des allocations, voulaient les mettre au plus offrant, si on veut. Là, les concessions pensaient faire beaucoup d'argent avec ces véhicules-là. Chez Ford, ça marche pas comme ça. Là. Ça a marché comme ça dernièrement, mais dans ce temps-là, ça ne fonctionnait pas comme ça. T'avais pas à te qualifier pour acheter une Ford GT. Là, tu rentrais, tu demandais si t'avais l'argent et ils te la livraient, tu prenais un café, mais il fallait-tu mettre une pièce dans la machine à café. Puis ton titre pour la voiture, ta facture était toute brochée ensemble, puis va la chercher.
On te livrait ça comme une Taurus.
Aide en cours en arrière, puis c'est ça, il n'y avait pas vraiment c'était pas très une cérémonie de prendre possession d'une Ford GT, excuse-moi. Mais après ça est venue la récession.
Oui.
La récession aux États-Unis en 2008.
Ah oui.
Beaucoup d'exemplaires se sont retrouvés, qui avaient été achetés avec un peu émotion, se sont retrouvés sur le marché. Il y en a certains qui ont fait des bonnes affaires à mettre la main sur des Ford GT 2005-2006. Mais maintenant, elles ont repris beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur parce que justement, depuis que la nouvelle est arrivée maintenant, il n'y en a plus, mais en 2017, la nouvelle GT, qui était le retour de la Ford GT en 2017, qui est, soit dit en passant, un véhicule complètement différent de qu'est-ce qu'elle était en 2005-2006. C'était, comme je disais tantôt, le V8 surcompressé 5.4 litres. Le système de contrôle de la traction se trouvait entre le volant et le banc, c'est-à-dire c'est l'individu qui est dans la boîte.
C'était aussi radical qu'une Viper au même moment,
C'est une bonne comparaison. On appelait ça des cercueils roulants. Là. Ouais. C'était des véhicules...
Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux de ces véhicules-là ont été accidentés et réparés. Ouais. Donc, de trouver 15 ou 20 ans plus tard une Viper qui n'a pas été accidentée.
C'est la même chose d'un Ford GT.
C'est
pas
évident.
Il y a eu beaucoup de monde qui ont perdu le contrôle parce que c'était énormément de couples roues à l'arrière, un véhicule qui ne pardonnait pas. Si elle en donnait beaucoup, elle en donnait beaucoup. Et puis, écoute, c'est juste un clignement de l'œil.
Ou après une goutte d'eau sur la chaussée.
On se retrouve à l'envers. C'est un véhicule qui donnait l'émotion, par exemple, comme tu parlais tantôt avec la Carrera GT. Carrera GT, là, c'est un véhicule qui se vendait beaucoup plus cher, beaucoup plus exclusif, mais quand même, l'émotion de conduire une machine, d'avoir totalement le contrôle, pas d'électronique, c'est toi qui actionnes, c'est des leviers.
Mais en même temps, pas une brouette, tu sais.
En même temps, pas une brouette, c'est des leviers, c'est tout est mécanique. Et puis, tu te retrouves, toi, à contrôler cette espèce de grosse quincaillerie-là qui a été faite spécialement pour la tenue de route puis la puissance. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en ce moment.
Non.
Et puis, je regarde...
Qu'on ne retrouvera plus.
Le dernier modèle de la Ford GT, c'est un bon exemple. C'est arrivé, c'est un moteur EcoBoost qu'il y a
beaucoup
dedans.
Beaucoup plus technologique,
beaucoup
pas de boîte manuelle.
J'ai eu l'occasion d'embarquer dedans exactement de la même manière que toi. À Calabogie, avec le premier propriétaire de Ford GT 2017 à Calabogie, qui lui avait été propriétaire d'une Ford GT 2005, mais également qui avait acheté ce véhicule-là. Et puis, bon, j'avais embarqué avec lui en tant que passager, et puis il m'expliquait très bien les différences. Il dit, c'est même pas, on dirait que c'est même pas la même marque, c'est même pas le même véhicule.
Ouais.
C'est pas, on a embarqué dans ce véhicule-là, la suspension qui compense. Tu sais, d'ailleurs, un véhicule qui est assemblé
au Canada,
à Markham, en Ontario, par la firme Multimatic, qui était assemblé ici, cette Ford GT-là, mais un véhicule qui est totalement beaucoup de technologie dans l'habitacle, beaucoup de mesures qui peuvent être prises par le bloc d'instruments. Comme tu dis, il n'y a pas de boîte manuelle. Ce n'est pas... Elle n'essaie pas continuellement de te tuer, comme l'autre, qu'on fait le beau parallèle avec la Viper, qui prend quand même une pondération puis une sagesse pour être capable de la conduire à haute vitesse, une bonne anticipation. Celui-là, c'est un véhicule qui pardonne beaucoup plus cette nouvelle, je dis tout le temps nouvelle Ford GT parce qu'elle n'a plus.
Même si elle n'existe plus.
La dernière génération, si on veut, de cette Ford GT-là. Donc, entre les deux, là, je te dis que la Ford GT 2005-2006, c'est encore un véhicule qui trône par-dessus cette 2017-là qui a été introduite en 2017 parce que justement, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, mécaniques et émotionnelles, que peut-être que cette dernière génération-là n'a pas réussi à fournir à ses conducteurs, à ses propriétaires. Germain, pour la question du réalisateur, on nous demande... Toi, qui es un adepte des miniatures, on a parlé
des voitures miniatures.
Des voitures miniatures.
Pas des poupées miniatures, ni des maisons miniatures.
Mais bien des voitures miniatures.
Des voitures miniatures.
Parce que c'est bien un podcast de char.
Tout à fait.
On a parlé d'énormément, de plusieurs voitures d'exception aujourd'hui. Ces voitures-là, combien que t'en as sous forme de miniatures?
Eh bien, chaque modèle qu'on a nommé aujourd'hui,
c'est vrai.
J'en ai une en miniature.
C'est vrai, et chacune, les Koenigsegg, les waouh, c'est vraiment, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment dur à cuire de la miniature.
J'en ai quelques-unes. Voilà. C'est drôle, hein. Ça kick là. Ouais, ok, c'est fini pour vrai là. Je suis désolé, je m'attendais pas à, craquer comme ça. Aïe, aïe, aïe. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Louis-Philippe Dubé et moi-même, Germain Goyer. Chers auditeurs, c'est la dernière fois que je vous dis ça. Je vous remercie d'avoir été là depuis 2018. Je vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir ri avec nous, d'avoir eu du plaisir à partager cette passion qu'est l'automobile. Je veux remercier aussi Frédéric Mercier qui a partagé ce micro et Marc-André Gauthier. J'ai bon espoir qu'on pourra se reparler très bientôt.
Ben Germain, ça a été un honneur de travailler avec toi, de partager le micro pour ces derniers épisodes-là, puis également de travailler à tes côtés.
On recommence.
OK. Ben Germain, ça a été un plaisir de travailler avec toi, de partager le micro et puis de travailler à tes côtés pour ces dernières années. Alors, possiblement pour la dernière fois, à la réalisation, au montage et à la musique, Philippe Séguin.
C'était une production Cube Radio.
Cube Radio.